Ok. Donc je vais lancer le premier chant qui est un chant partisan qui explique aux premières recrues comment se comporter en contexte de guérilla. C'est bon, on a eu le temps de lire. Voilà. Donc je reviens à la diapo. Voilà. Je vais travailler sur ces chants à partir d'un corpus que je présente rapidement, donc qui est tiré des National Archives of Zimbabwe, dans des dossiers qui ont été conservés par une journaliste qui s'appelle Julie Frédéric-Seu, et dans la section numérique, enfin la section de Record Center des National Archives, et dans diverses sources imprimées, donc la thèse de Martha Lane que vous voyez ici, où j'ai mis la référence. Également des éditions commémoratives à partir de 1980 des chants de la Chimurenga qui ont été édités par le parti de Robert Mugabe, donc le ZANU. Voilà, donc c'est à partir de ce corpus-là que j'ai travaillé. Je travaille dans une perspective littéraire, donc je suis littéraire, je suis pas historienne, et donc je travaille sur comment, dans la langue et dans les modes de narration endogènes, le socialisme de Robert Mugabe et le socialisme de lutte peut être explicité. Donc j'essaye de voir comment la rhétorique se manifeste à l'intérieur de ce corpus de chants, et notamment comment est-ce que cette hybridité dont on a parlé hier, cette hybridité de fait du socialisme, s'exprime dans les narrations endogènes. Les corpus sont souvent donc trilingues, en shona, certains en ndébélé et certains aussi en anglais. Voilà. Donc j'exposerai donc des pistes d'enquête à partir de la langue et du récit en analysant les mises en récit du socialisme de lutte zimbabwéen et en analysant comment ce socialisme se narre lui-même, donc les narrations du socialisme lui-même. Je verrai également comment est-ce que ces chants se fixe à partir de non-dits et d'apparence transparence du texte, et j'interrogerai notamment les intertextes, donc par exemple des chants qui pourraient paraître en apparence extrêmement transparents et anodins, en fait réfèrent à des intertextes de chants de louanges religieux qui véhiculent à l'intérieur d'un non-dit en fait toute une aura religieuse ou des intertextes politisés à l'intérieur de la forme elle-même que prennent les chants, qui pourraient en apparence être totalement anodins, sont en réalité porteurs de sens et de connotations. Donc j'analyserai ces chants à la frontière de l'institution, puisque ces chants sont souvent produits par des cadres et du populaire, puisqu'ils ne peuvent vivre qu'en étant réinterprétés et chantés, repris, performés. Donc ce ne sont ni des textes théoriques ni des textes critiques, et leurs auteurs sont souvent inassignables. Et précisément, nous faisons l'hypothèse que ce croisement est précieux pour étudier les narrations du socialisme vécu, chanté et partagé en milieu shona et ndébélé majoritairement. Mon temps d'étude est à partir de la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie en 1964, qui porte le gouvernement de Ian Smith au pouvoir, jusqu'à la conférence de Lancaster House en 1979-1980 et l'accession au pouvoir de Robert Mugabe. Donc c'est 15 ans de lutte armée que les deux partis, donc le ZAPU à majorité Ndébélé et le ZANU à majorité Shona, donc se partagent donc une lutte armée contre le gouvernement de Ian Smith et mettent tous les deux en scène les Chimurenga Songs. Ce sont donc Chimurenga vient de Murenga qui signifie la lutte. Donc ce sont des chants de combat qui ont joué un rôle fondamental dans l'enrôlement des recrues et dans la diffusion d'une idéologie socialiste que je vais vous présenter maintenant. Ce sont des chants qui ont aussi pour but d'être une contre-propagande, donc contre la propagande rhodésienne anti-marxiste. Donc je vous ai mis rapidement quelques flyers qui étaient distribués par le gouvernement de Ian Smith. Donc, vous voyez ici, camarades, vous êtes voyez la vérité et faites attention aux mensonges communistes, où on voit donc que le communisme mène à la famine et à la guerre. Vous en avez plusieurs comme ça. Voilà, donc ces chants sont diffusés et à la radio, mais majoritairement dans les campagnes par des réunions qui s'appellent les Pongwe. Donc j'en ai pas mis ici, mais donc Turino et Alec Pongweni, que j'avais mis dans la biographie au début, ont analysé la manière dont se diffusaient ces chants. Donc là, je vous ai mis un programme radio que j'ai retrouvé aux archives de Londres. Donc vous voyez, il y a l'African Service de la RBC, la Rhodesian Broadcast Corporation, avec l'African Service dans la colonne de gauche, dans la colonne du milieu, pardon, où il y a des grilles où il y a juste marqué « musique ». Il est peu probable que des chants explicitement de Chimurenga aient jamais passé à la radio. En revanche, des chants de louanges et des chants d'invocation aux ancêtres ont pu passer. Et donc, dans l'analyse de ces textes, je veux montrer que certains chants de langue peuvent porter ces messages de lutte armée. Voilà, donc je passe un peu rapidement. Donc, à de très rares exceptions près, ces chants n'ont pas d'auteur unique. Ils ont été écrits la plupart du temps à plusieurs mains par des cadres des partis et ils ont été ensuite transmis dans des réunions de village en soirée, donc des réunions évidemment informelles et clandestines. Qui visait à conscientiser les masses, d'après le vocabulaire du ZANU, en insérant dans les discours des chants et les rudiments de l'analyse marxiste de la situation coloniale. Ce patrimoine était issu de chants aisément adaptables, et mémorisables, notamment parce qu'il s'inspirait largement d'un répertoire connu de chants de guerre et de chants d'invocation religieuse. Et donc, il y a un va-et-vient entre ces élites politiques et le populaire dans l'inspiration de ces intertextes. Voilà. Je passe un petit peu rapidement. Pour ce qui est de la diffusion radio, il y avait donc la RBC que j'ai montrée et également des stations de diffusion depuis Maputo au Mozambique et certaines ponctuellement depuis Lusaka. On retrouve dans les archives nationales de Londres des dossiers d'écoute du Foreign Office qui démontrent que ponctuellement Lusaka a pu émettre certains messages de Robert Mugabe et des porte-paroles du ZANU. Voilà. Il me reste 5 minutes. Donc le premier des chants est donc expliqué et enrôlé. Le premier des rôles, c'est expliqué et enrôlé. Donc vous voyez avec le chant que j'ai passé tout à l'heure, les règles de conduite sont expliquées de manière extrêmement pédagogique et se terminent par l'invocation à Mao comme figure fondamentale. Donc ces chants ont la particularité de mêler des références à la fois locales et transnationales. Donc locales, on peut le voir dans d'autres chants. Par exemple, dans celui-ci, vous voyez l'invocation à des figures religieuses, donc Mbuya Nyanza, qui est une prêtresse de la religion Shona, pour aller vite. Et dans la même phrase, peuvent être également invoqués des leaders nationaux comme Robert Mugabe et donc Mao, comme on l'a vu dans les autres chants. Donc ça, c'est une des... Donc c'est Mbuya Néanda, on pourrait y revenir plus tard. Voilà. Donc le deuxième... je passe tout de suite aux enjeux... je passe finalement à mon dernier point. Donc le premier des enjeux, donc je disais, c'était l'enrôlement et l'éducation des jeunes recrues de la guérilla. Et ce qui est frappant, c'est l'évident affichage discursif socialiste, c'est-à-dire que ces chants ont pour vocation de diffuser un socialisme hybride et composite, comme on l'avait vu hier. Et en même temps, à l'intérieur de cet affichage discursif, il y a toute une série de manipulations rhétoriques à l'intérieur de l'insertion de ce lexique socialiste, et notamment la mise en place d'un culte de la personnalité de Robert Mugabe, donc qui peut se voir notamment dans ce chant là que je vous ai mis, qui est un chant de louange à Mugabe, qui met en scène à la fois Mbuya Néanda, donc, qui est une ancêtre religieuse, et le Chitepo, qui est mort pour la patrie, nous est-il dit ici. Et je montre dans mes analyses que ce chant, en apparence extrêmement neutre et tout à fait anodin, est en réalité une manière pour Robert Mugabe de se dédouaner de la mort de Chitepo. Donc Chitepo est un autre... est assassiné en Zambie, à Lusaka, donc en mars 1975, et Mugabe aurait été accusé d'avoir profité de sa mort dans un conflit, enfin, ce qui lui permettait d'être à la tête du ZANU et de renforcer son emprise à la tête du ZANU. Et donc ce chant, en apparence tout à fait anodin, lui permet en fait de se laver de tout soupçon concernant la mort de Chitepo. Donc dans des chants de louanges qui s'insèrent dans un intertexte beaucoup plus long de louanges tout à fait traditionnelles, en réalité des simples substitutions de noms propres à la place de l'ancêtre et le passage de Chitepo, la substitution de Chitepo à la place de Mugabe, enfin, et de Mugabe à la place d'autres ancêtres, véhicule en fait tout un intertexte et une aura religieuse qui a pour but de laver ici Mugabe de tout soupçon quant à la mort en 1975 de Chitepo. Donc il me semble que l'analyse d'intertexte et de filiation symbolique permet ici de montrer comment est-ce que les rhétoriques socialistes s'insèrent dans des jeux de pouvoir et des conflits personnels, en réalité extrêmement historiquement situés, et qui permettent de densifier un peu la complexité de l'analyse de ces textes en apparence extrêmement anodins. Voilà. Et donc, sur le même modèle, donc sur les ancêtres du Zimbabwe, donc Mudimu Woye, il y en a beaucoup des chants qui s'appellent comme ça. Il y a toute une variation de chants qui s'appelle Mudimu Woye et qui ne mettent pas en scène Mugabe et qui peuvent être à ce moment-là diffusés à la RBC de manière apparemment neutre, sauf que c'est le même air musical et donc même la mélodie en elle-même, une simple mélodie de quelques notes de Mbira qui esquisse ce chant-là, peut faire référence à ce même chant qui met en scène Mugabe et Chitepo. Voilà. Il me reste une minute. Voilà. Donc j'avais beaucoup d'autres choses à dire sur notamment les réécritures de l'histoire à l'intérieur de ces chants-là. Mais je voulais juste du coup peut-être vous signaler les discographies révolutionnaires qui ont été éditées après 1980, qui servent le régime de Mugabe et qui mettent en scène une écriture de la lutte dès 1980. Voilà. Et le plus connu d'entre eux, c'est Mafumo, qui met en scène ici, donc sur sa première de couverture, Mbuya Néanda, que j'ai cité tout à l'heure. On peut y revenir peut-être dans la discussion. Et donc ça, c'est une photographie d'elle qui a été prise en 1896 à sa capture. donc qui dresse une continuité entre la lutte anticoloniale du 19e et la lutte de 1960 et qui sert l'écriture de l'histoire jusqu'en 2000. Et ces chants-là ont aussi une pérennité dans les chants et dans les poèmes de praise song qu'on retrouve dans des petits ouvrages. Donc ça, celui-là, je l'ai photocopié dans la rue au Zimbabwe. C'est des petits recueils de souvenirs de femmes et de sections féminines de lutte qui étaient entre le Mozambique, enfin aux frontières entre le Mozambique et le Zimbabwe. Et à l'intérieur de ces poèmes de femmes qui se souviennent, on retrouve des bribes de Chimurenga Songs. Voilà. Et ça, dans les manuels scolaires, on trouve donc en haut à droite, on retrouve des mécanismes rhétoriques qu'on trouve dans les Chimurenga Songs. Donc vous voyez l'indépendance qui mène au colonialisme, qui mène au sous-développement. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc ça, c'est la première page d'un manuel d'histoire qui s'appelle People Making History. C'est le manuel d'histoire du collège à peu près. Voilà, donc on retrouve notamment cette même photo de Néanda à l'intérieur du manuel d'histoire. Donc il y a aussi des photographies et, qui sont un peu mythifiées, voilà, qu'on retrouve aussi. Voilà, bon, je suis désolée, j'ai été un peu rapide. Merci.
Vous pouvez aussi retrouver donc, la communication complète de Ilara dans, oui. Dans le fascicule qu'on vous a tous distribué.
Et notamment les chants.
Notamment les chants à analyser. Donc on va passer la parole maintenant à Pauline Bernard, au bout de la table, qui va nous parler de l'Ouganda. Et sa communication s'intitule « Être dans le peuple comme un poisson dans l'eau, le syncrétisme idéologique du National Resistance Movement et la guerre du peuple prolongée en Ouganda, 1981-1986 ».
Merci. Les choix politiques hybrides au sein de l'Armée nationale de résistance, le mouvement d'opposition armée de Yoweri Museveni en Ouganda dans les années 80, peuvent passer pour des contradictions idéologiques. La NRA était en effet une guérilla de type maoïste, dirigée par un leader progressiste d'influence marxiste. Museveni, qui avait choisi pour mener sa lutte la forme d'une guerre du peuple prolongée, théorisée par Mao Tse-tung, s'était basé avec une trentaine de partisans dans la région du Luero, à l'ouest de la capitale. Mais l'acquisition d'un large soutien populaire par la guérilla fut entre autres le fruit d'un compromis, car les révolutionnaires ont dû composer sur le terrain de la lutte avec des paysans plutôt conservateurs et attachés à leur monarchie, d'autant plus qu'elle avait été violemment interdite par le régime en place qui, lui, se revendiquait du socialisme. Pour la réussite d'une guerre populaire, Mao préconisait qu'une guérilla doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Le leadership de la guérilla, pendant la guerre, a promis officieusement aux dignitaires locaux, en échange de leur soutien pour la mobilisation des masses, la restauration de la royauté après la victoire. Le choix de la guerre populaire prolongée maoïste et les accommodements qui suivirent sur le terrain se révélèrent fructueux, puisque 5 ans plus tard, la guérilla comptait parmi ses rangs 16 000 combattants environ, majoritairement des paysans issus des régions ouest et centre du pays, et prenait la capitale et le pouvoir d'État. Comment alors on peut définir la nature idéologique de la National Resistance Army entre emprunt de circonstances, orientation profonde, stratégie pragmatique et conviction? C'est ce syncrétisme idéologique-là que j'aimerais démêler ici plus en détail avec vous. Donc, pour ce faire, on a des sources qui vont nous renseigner à différents niveaux. D'une part, la propagande et les documents internes du mouvement de l'époque qui permettent de saisir les positionnements idéologiques théoriques, les autobiographies et les écrits contemporains de l'époque et puis des entretiens réalisés avec les membres fondateurs du mouvement qui, eux, nous renseignent sur la façon dont ces cadres politiques du mouvement se sont appropriés les idées et ont essayé de les retransmettre aux masses. Et puis, les entretiens recueillis auprès d'une part des combattants de base et aussi des résidents civils des zones dans lesquelles s'était implantée la guérilla. Et là, c'est dans une autre langue, dans les langues Luganda et Kiswahili. Donc je vais passer très très rapidement sur la première partie qui retraçait les influences idéologiques des membres fondateurs de la guérilla. Je montrais que ce choix de la stratégie maoïste, de la guerre du peuple prolongée, était d'abord, avant d'être une influence directement chinoise, était surtout la reproduction du modèle observé au sein du Frelimo mozambicain, qui était basé en Tanzanie, au sein duquel ce qui va représenter le noyau dur de la future guérilla ougandaise s'était formé dans les années 70 militairement. Je vais plutôt prendre le temps avec vous d'essayer d'étudier comment le maoïsme a servi d'une boîte à outils politique et militaire pour la guérilla, et puis comment, pour acquérir le soutien des masses, s'est également opéré une forme de syncrétisme idéologique hybride, entre autres avec des éléments conservateurs et pro-monarchistes. Donc, tout d'abord, comment la mise en pratique de la guerre populaire maoïste s'est faite dans un registre stratégique et politique, sans pour autant afficher un projet d'inspiration maoïste. Donc là, il ne s'agit pas d'évaluer la conformité de la guérilla avec l'orthodoxie maoïste, mais plutôt d'en s'intéresser comment la guérilla ougandaise s'est appropriée la théorie, la pratique et la culture aussi de la guerre du peuple prolongée. Donc, on peut commencer par regarder le premier numéro de l'organe de propagande clandestin de la guérilla qui est sorti quelques mois après leur première attaque, attaque par 26 hommes armés d'une caserne militaire à l'ouest de la capitale qui marquait le début effectif de la guérilla. Donc dans cet organe clandestin, on retrouve un article de Museveni, du leader, qui définit qu'est-ce que c'est que la guerre du peuple prolongée. Alors, il ne cite jamais Mao, il ne dit pas que c'est maoïste, mais quand on compare avec les textes de Mao sur la guerre du peuple prolongée, c'est une copie conforme. Donc, il explique qu'elle est constituée de trois phases, de la guerre de guérilla, de la guerre mobile et de la guerre conventionnelle. Au cours de chaque phase de la guerre, Museveni va scrupuleusement justifier toutes les évolutions pratiques de la guerre par rapport à ces trois phases de la théorie maoïste. À un moment donné, ils sont obligés de se retirer du territoire qu'ils ont contrôlé après des défaites militaires. Et Museveni explique, ce n'est pas une défaite, nous n'abandonnons pas les civils, nous n'abandonnons pas le territoire, c'est un retrait tactique. On passe de la phase de guérilla à la guerre mobile. Au-delà de la pure stratégie militaire, on reconnaît aussi l'inspiration maoïste par l'organisation de la branche politique du mouvement, avec la création des commissaires politiques et la mise en place de l'éducation politique à trois niveaux, au niveau des cadres du mouvement politique et militaire, au niveau des combattants de base, mais aussi en direction des civils. C'est dès le début de la lutte armée que la NRA, en reproduisant là toujours la pratique du Frelimo mozambicain, crée les commissaires politiques pour encadrer et entraîner politiquement les civils et les combattants. Donc on peut retrouver ces témoignages des commissaires politiques. Certains ont écrit des biographies, d'autres, j'ai réalisé des entretiens. On peut retrouver en fait comment est-ce qu'ils se sont appropriés les textes et comment ils ont essayé de les retransmettre. Par exemple, Benon Biraro, qui lui sortait de l'université avec une licence de sciences politiques quand il s'est engagé dans le mouvement, explique « The protracted people's war was Chinese, though they wanted to nationalize it into Ugandan context. For example, the long march, we didn't want to do the long march. The whole approach was fish in water. We had some text, a few texts of Mao. When they concentrate, you disperse. When you disperse, you concentrate. The enemy does not determine the battlefield. When they move in, you disperse and harass. You break the road system. It was classical Mao Zedong. Though, we were not so much on land reforms. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre vraiment ce qui l'intéresse et ce qui l'intéresse pas dans la théorie maoïste. Un autre cadre de la guérilla, qui lui aussi était licencié en droit et qui aussi avait reçu une formation militaire avant de s'engager dans la guérilla, David Sedjusa, qui faisait partie du haut commandement dans le maquis, explique les différences entre la guerre régulière et la guerre du peuple telle qu'il a expérimentée dans le maquis. The most important difference is that you are bound together now for a new idea. Forget about other things, the means, etc. Now you have a new idea of struggle, it's a new clothing, and you start identifying yourself ideologically. And this is more fundamental because then it breaks the usual boundaries of class, of gender, of history, because now you start focusing on the same aim. And then we started reading literature of Mao Zedong, of Cuban Revolution. In other words, you get a new religion. It's like a religion. Et donc cette cassure des barrières de classe, de genre qu'évoque ce cadre du mouvement, c'est aussi exprimé avec d'autres mots par les combattants de base. Juste un exemple, les femmes combattantes de base d'origine paysanne qui se sont engagées dans le mouvement ont toutes exprimé que pendant leur expérience dans le maquis et pour la première fois de leur trajectoire de vie, elles se sont senties comme des hommes, avec les mêmes uniformes, la même coupe de cheveux, la même arme, le même code de conduite. Elles ont exprimé aussi des nuances, mais je n'ai pas le temps de l'évoquer ici. C'est la première fois que des femmes se battent aux côtés des hommes en Ouganda. Là encore, au lieu d'être une reproduction des armées rouges soviétiques et chinoises, c'est d'abord un recopiage du Frelimo mozambicain. Un des aspects aussi importants de la lutte qui revient souvent dans les entretiens avec les anciens combattants de base de la NRA, c'est la mise en avant de la discipline des combattants de la liberté. Ouais. Donc, le code de conduite de la NRA, qu'on retrouve aussi dans l'organe de propagande clandestin du mouvement, a été vraiment assimilé par les combattants de base, et c'est ce qui ressort très clairement dans les entretiens. Donc, on peut comparer on peut faire la correspondance avec les trois grandes règles de discipline et les huit recommandations de Mao à l'armée populaire de libération de Chine. C'était en 1947. Donc je vous laisse regarder. Ce qui est rigolo, c'est des fois l'adaptation. Par exemple, la grande règle de discipline numéro 1 de Mao, ne prenez pas au masque une seule aiguille, un seul bout de fil, ça se traduit par ne prenez pas même une banane douce ou une canne à sucre. Donc j'ai malheureusement pas ici le temps de discuter sur est-ce que ce code de conduite a été respecté à la lettre par les combattants de la guérilla. Quand même, globalement, quand on interview les résidents, ils ont été quand même frappés de la discipline de la guérilla en comparaison avec l'armée régulière. Je vais conclure pour dire que ça n'a pas non plus tout à fait marché comme les textes officiels nous le disent, parce que les témoignages des combattants de base témoignent quand même de difficultés au début de la guerre qui ont obligé à un certain retournement idéologique du mouvement. Je cite Pekos Kutesa, l'un des cadres politiques du mouvement, qui dit Mais ce que Mao ne nous avait pas dit, c'est que quand l'eau devient hostile, le poisson doit mourir. Il se trouve que pendant les premiers mois de la guerre, le soutien populaire de la part des paysans n'a pas été si facile que ce qu'il était prévu. On a des témoignages de résidents qui nous disent au début, les civils dénonçaient la position des guerrieros à l'armée gouvernementale. Et on a aussi des témoignages des guerrieros qui témoignent de cette peur du civil au début de la guerre. Comme, certes, c'était une guérilla populaire qui devait être basée sur le peuple, mais le peuple était aussi, pouvait être responsable de la mort à travers la dénonciation. Donc cela a mené, en fait, parce que je vous avais dit que les paysans locaux avaient en fait des dignitaires qui est des dignitaires en fait qui étaient pro-monarchistes. Et il se trouve que officieusement, alors ça se retrouve pas dans la littérature, dans l'histoire officielle, mais officieusement, il y a une promesse de rétablissement de la monarchie qui a été faite au dignitaire Ganda. Mais cette promesse n'a pas été vécue comme un fourvoiement idéologique. Pourquoi ? Parce que dans la tête des leaders de la guérilla, le royalisme, la culture monarchique ou le conservatisme des paysans a été considéré comme une tradition africaine mythifiée et dépolitisée. Et d'ailleurs, la monarchie qui a été rétablie des années après a été une monarchie culturelle et pas politique, dont les leaders n'avaient pas le droit de prendre part aux activités politiques. Donc, pour conclure par le fait qu'on ne peut pas considérer les contradictions idéologiques comme juste un pur opportunisme ou une simple absence d'idéologie, je fais référence à Frantz Fanon en 1864 qui disait que le gros problème qui menace l'Afrique était l'absence d'idéologie. Ça reviendrait à évacuer en fait l'histoire des idées, parce que ce qu'on voit en essayant de comprendre tous les héritages idéologiques des membres de la guérilla, c'est plutôt un trop-plein d'idéologie. Et on voit que c'est surtout pour l'acquisition d'un soutien populaire et en suivant la préconisation de Mao Tse-tung de se fondre dans le peuple comme un poisson dans l'eau, qu'en prenant au mot en fait Mao, les révolutionnaires se sont accommodés, non pas avec un système politique féodal qu'ils ont pris soin de dépolitiser, mais avec une tradition, une culture africaine. Et on peut dire ainsi que la non-orthodoxie idéologique du mouvement ne fut en fait l'envers qu'une créativité politique originale. Et qu'on peut en cela inclure, rendre héritière des socialismes africains de Nyerere ou autre. Voilà, je m'arrête là, il y a 15 minutes.
Merci beaucoup, Pauline. On va passer à la troisième intervention.
Merci beaucoup. Okay, I will change to English. I'm sorry. Thank you very much for inviting me here and give me the chance to tell you an exile tale about the Socialist League of Malawi. I am an European ethnologist working on African exiles who came to the GDR, to the German Democratic Republic, and stayed in Germany after 1990. And I extracted this tale out of the estate of one of these exiles. When thinking about Southern Africa, small and landlocked Malawi is easily forgotten, and probably even more so if the question of socialism is raised. Deeply embedded in its colonial entanglements with the western part of the Cold War world, Malawi's breakout of the Central African Federation and its relatively late independence in 1964 resulted in the stable dictatorship of Hastings Kamuzu Banda, a notorious anti-communist. By establishing diplomatic relations with apartheid South Africa and Portuguese-ruled Mozambique, Banda not only demonstrated a unidirectional Western orientation, but also a quite unique interpretation of Pan-Africanism, as I would argue. His authoritarian pro-Western style faced the resistance of several ministers, historically went later to be known as the Malawi cabinet crisis. As a consequence, a considerable part of Malawians, among them most of the ministers, were driven into exile. Especially in Nyerere's Tanzania, an exiled Malawian opposition emerged that had to be taken seriously by Banda. The Socialist League of Malawi, or LESOMA, was reputedly the largest political organization of Malawian exiles and the only one with a distinct Marxist-Leninist outlook. Some word on my sources. Of the limited literature that exists on LESOMA, the recently published book, Malawi's Lost Years, edited by the party's founding member Kapoti Mwakasungura, who is still alive, and Doug Miller, the latter a Canadian expatriate and Lesoma activist, stands out with the most detailed account of Lesoma until now. Beside that book and personal information from Marcus Angura, as well as some other literature, my paper and my research here builds mainly on two sources, which this is important to consider, emphasize a perspective from abroad. Firstly, I use the estate of the late Malawian Mahoma Waungulu, who was Lissoma's representative for Eastern and subsequently Western Europe. Archive files from the German Democratic Republic covering the years from the 1970s to the 1980s, on the other hand, allow me to outline some of the arguments Lissoma used to promote its struggle and to convince the GDR, at least for a certain period, of a socialist ideology acceptable by the East Germans. Foundation, political objectives, and structure. Among the Malawian exiles in Tanzania were most of the revolting ex-ministers, as well as younger graduates from communist countries like the before-mentioned Mwangulu. He had studied in the GDR. Around 1967, a split occurred between the political leaders in exile. The three ex-ministers involved were Kanyama Chiumi and Henry Chipembira, as well as Yatute Chisisa, who had studied in China. At that time, in Tanzania, the Pan-African Democratic Party, led by Chipembira, served as the main uniting party for the Malawian exiles there. In one of their writings, Lissoma's steering committee blames Chiumi as the main person responsible for the split between the ministers or the exile leaders, claiming that Chiumi repeatedly questioned the political integrity of Chipembira. Without the backing of the latter, and for reasons that the Soma paper does not further explain, Chisisa then started a guerrilla campaign on Malawian ground, which ended with his violent death by Malawian security forces. In a certain way, I would argue Chisisa can be seen as the forerunner of Lissoma's radical political spirit. But what I find more illuminating about this failed incursion is that it lays testimony to an already quite early involvement of socialist countries in the formation of a radical Malawian opposition. Chisisa and a small group all had received training in socialist countries. Moreover, all the ex-ministers had cooperated in sending militants to Algeria, China, or Cuba for military training. Even the host country, Tanzania, is said to have offered such training for Malawian exiles to increase their capacity of self-defense against the threats of Banda's forces. The years in Tanzania following Chisisa's death and Chipembira's final departure to the United States at the end of the 1960s are being described as a period of stagnation, especially after the Pan-African Democratic Party finally broke up, a political vacuum appeared. The remaining ex-ministers started to group loyal supporters around themselves, thus dissolving the former sense of unity while slowly establishing several oppositional groups. Lissoma's steering committee, now self-reliant, argues that what was born as Lissoma in 1975 was a resurrection of the unity of the opposition forces that had existed before the split of the late 1960s. So, who were the founders of Lissoma, and in which way did their political views differ from those of renowned politicians like Orton Scheerbaum? Lissoma was the political outcome of a younger generation of Malawian exiles, not only disappointed about the clashes of the ex-ministers, but also deeply inspired by the environment. Nyerere's Pan-Africanism, his promising experiments with socialism, Frelimo's successful liberation struggle, and the presence of other liberation movements like the ANC on Tanzanian ground. Adding to this is the influence of experiences made in socialist countries, where some exiles had received university degrees or political and military training. Accordingly, Lissoma adopted the language and attitude of national liberation movements, matching it on the specifics of its own difficult situation. In writings and speeches, the party insisted on the relevance of neocolonialism to counter the obvious paradox of struggling against the independence leader of a black African nation. This delicate situation forced Lissoma repeatedly to justify its struggle and to explain its causes. Of particular significance is the emphasis on being a national liberation movement, the legitimate representative of all Malawian people, and not primarily a movement of exiles, which could hardly claim to represent the majority of the Malawians, however harsh Banda's repression in the country actually was. Among the four founding members were the already mentioned Marcus Angura, who had fled Malawi in 1964 as a student activist, and a former member of the Pan-African Democratic Party. The party steering committee, on the other side, included two survivors of Chisisa's guerrilla campaign. In 1974, Lissoma's then still provisional steering committee wrote the party's manifesto. Unsurprisingly, One of the immediate objectives was to prepare, by all means possible, the overthrow of Dr. Banda's dictatorship and the seizure of power by the workers, peasants, and progressive intellectuals. Naturally, the manifesto called for a socialist restructuring of Malawi's national economy. Concerning African unity and international cooperation, it claimed something which, at least to me retrospectively, sounds oddly nostalgic and confusing. If you look at the history of Malawi, Lesoma's ambitious objective was to rehabilitate Malawi's dignity and rightful place in the Organization of African Union and the United Nations, and particularly to play an active role towards promoting the African Revolution and international solidarity. Lesoma's party structures reached from the Central Committee in Tanzania and regional committees in Zambia and Zimbabwe to district and zone organs up to clandestinely organized cells within Malawi. The total number of its members can only be estimated. Lesoma's first national chairman, Atati Mpakati, spoke of 15,000 active supporters both inside the country and in exile. Meanwhile, a German scholar roughly estimated the number with several thousand. Lesoma existed until 1991, when the party, together with two other Malawian opposition movements, merged into the United Front for Multiple Democracy, which in 1994 won the first democratic elections in Malawi. I will now speak briefly about the leadership. Although in its speeches and writings, Lesoma rejected individualism and leadership culture, the party's first national chairman, Atati Mpakati, deserves some extra words. He had been a regional secretary in the Nyasaland African Congress and left Nyasaland in 1961 after detention. What may be more significant here is that he had studied in the Soviet Union. Considering Banda's obsession to eliminate him, Mpakati must have been the incarnation of all evil communism meant for the Malawian lifetime president. Described by an East German diplomat as a serious and reliable person fully aware of politics, around 1976, Mpakati had the invidious task to remove a part of Lesoma's headquarters from Tanzania to much more insecure Mozambique. Tanzania tolerated Lesoma but prohibited the party to act in public. Meanwhile, its office in Dar es Salaam should focus on Lesoma's international and Tanzanian relations. Mozambique was thought to become the clandestine base for making stronger connections to Lesoma's cells within Malawi. The party shall also have tried to convince Frelimo to provide military training for its cadres, but Mozambique had little interest in straining its difficult relations with Malawi while waging a civil war, and the country is said to have kept a close eye on that base. It was in Maputo where a ladder bomb dismembered both of Mpakati's hands in 1979. In 1982, Banda had put enough pressure on Zambia, where another base of Lesoma existed, to expel him. In 1983, the manhunt came to an end with the fatal shooting of Mpakati in Zimbabwe. The assassination of its leader undoubtedly had an unsettling effect on Lesoma. But I think it helps to understand a speech representatives of Lesoma's youth movement held around the mid-1980s at a gathering of the Pan-African Youth Movement. Disappointed by the hesitant and ambivalent way the frontline states dealt with Malawi, it not only criticizes the frontline states, but, at least implicitly, also switches Lesoma's profile from being a national liberation movement to the perhaps more realistic notion of being a movement of exiles and refugees. So, if Lesoma's youth movement articulated some critique against the frontline states, which were the main host countries of Malawian exiles within Africa, how was the relation to the socialist world in the north? I now talk briefly about international solidarity. In early 1980, right after the ladder bomb had exploded in Maputo, two closely related events took place in East Berlin. One occurred in the office of the German Democratic Republic Solidarity Committee. In a conversation between the committee's proxy secretary general and Mahoma Waungulu, the latter was asked to leave the GDR as soon as possible. At that same day, the diplomatic channels between East Berlin and the GDR's embassy in London ran hot. The objective was to impede the entry of Mpakati on East German ground. After having been wounded by Banda's ladder bomb, Mpakati was flown to London for medical treatment. From there, he planned to fly to East Berlin, where Maungulu spent his own years in exile and tried to organize the further treatment of his chairman. Mpakati never reached German soil. 2 years after this incident, Maungulu was expelled to West Berlin. Waka Singura describes him as a true internationalist who was familiar with many leaders of groups like the ANC, SAPU, MPLA, or SWAPO. Maungulu's inner German expulsion marked the end of the official relations between the GDR and Lesoma. Until then, the GDR had trained two more Lesoma members, printed several official party documents like its provisional constitution, the party's manifesto and membership cards, as well as Lissoma's organ Cucianzo. This is what you see here on the screen. Not unlike the ANC's much better known Sechaba. I think that at least two factors determined the GDR's decision to cut all ties with Lissoma. Firstly, the 1980s were the time when Malawi became a member of the Southern African Development Coordinating Conference, which led to a reapproachment to its neighbors, of course. Secondly, and probably more crucial, the GDR was economically involved in the Mozambican borderland to Malawi, where the East German state participated in a coal mining project. It served as an important source of foreign currency for a declining national economy, just at the time when railway damages caused by the Mozambican civil war made of Malawi a transit country for transportation. Fortunately, Northern solidarity was not depending solely on the GDR. Especially the Soviet Union supported Lissoma with a lot of scholarships. Lissoma also succeeded in participating in a remarkable number of international conferences. The breakthrough came with the participation at the 1977 conference in Lisbon against apartheid, racism, and colonialism in Southern Africa. The two eternal exiles, Mwaka Sungura and Maungulu, were proudly listed there as official representatives of Malawi. I now come to a brief conclusion. Well, I could now explain why Lissoma's insistence on neocolonialism and the role corrupted elites play in it not only recalls Nkrumah's famous book about the last stage of imperialism, it also anticipates what Tandika Mkandawira, himself a Malawian exile who is said to have been a close friend of Mpakati, concluded as distinguished Nyerere lecturer in 2013 while reflecting on 50 years of African independence. Or I could also argue that Lissoma's unfulfilled dream of a People's Republic of Malawi is one thing. Meanwhile, the steady organization of a considerable number of exiles and refugees and the task to improve the daily life are another matter. Indeed, the party was also concerned with more pragmatic and less prestigious projects like the Malawi Refugee Concrete Block or international campaigns to collect second-hand clothes for newly arriving refugees. It seems to me that Lissoma knew only too well what another famous Malawian, Paul Selesa, once described as the exile condition of the post-colonial world. But Lissoma's intentions and modus operandi are best summarized in a letter Mwaka Sungura wrote to Comrade Maungulu in West Berlin in the mid-1980s. So please let me end with the following quote of Mwaka Sungura. "Dear comrade, back home the situation is still extremely volatile and anything can happen. But in spite of the extremely complex situation in which we have to operate, there is something to comfort us in that the party now does have roots inside and in a way functioning and drawing more and more people into the fold. The government, Banders, are perhaps spending half its energy having to cope with the infectious spread effect of Lissoma. And that is definitely no small achievement for a party without a bank account and a single full-time cadre. The neighbors, too, while recognizing our growing influence on the inevitability for forming the next government in Malawi, are as chittery about our independence of mind and singleness of purpose as Banda is afraid of our power over the people. Historians will have trouble writing the history of Malawi and the part Lissoma played over this period." Thank you.
Merci beaucoup, donc, Sébastien. Est-ce que ce serait possible aussi de parler un peu plus lentement pour l'anglais, qu'on soit tous, qu'on comprenne bien? Donc on va passer à la dernière intervention. Je parle dans le micro pour la traduction, en fait. On va passer donc à Jacob Zolvan sur le cas de la Namibie. Vous avez 15 minutes.
Merci beaucoup. First of all, let me ask, should I attend this conference? Can I claim to have something to say about socialism in Africa or African socialism? As you heard, I will be speaking about Namibia or Southwest Africa. That was a country first ruled by German and then by South African administrators, adamantly opposed to any socialist thought. And a country that is now, following its independence in 1990, generally acknowledged as one of the shining examples of market-oriented multi-party democracy in Africa. However, the dominant party since 1990, the Southwest Africa People's Organization of Namibia, or SWAPO, was also the dominant movement in the struggle, politically and militarily, for independence from South Africa. Its left-leaning anti-imperialist rhetoric and the sources of its weapons arsenal soon caused the South African authorities to claim SWAPO is a communist terrorist organization. we will return to this. While the adjective terrorist seems a doubtful characteristic from our nowadays perspective, the adjective communist might be worth more consideration. By the 1970s, the outspoken political and military support of socialist states, most of all the Soviet Union and the GDR, and a number of East European states, left little doubt about SWAPO's Marxist political affiliation. And more than this, the party program of 1976 undisputably declared SWAPO's underwriting of a socialist Weltanschauung, envisioning a classless society. And only with the demise of world communism in the late 80s, also SWAPO's position towards a multi-party system and a market-driven economy changed. I will thus not speak about socialism in Namibia or Namibian socialism, as there is no to speak about. Rather, I will speak first about SWAPO's turning to the socialist camp and SWAPO's ideas for a future in Namibia. And I will leave the GDR part to my colleague speaking after me, because I noticed in the program there are two more or even more, three more papers on the GDR. So please let us talk about socialism and SWAPO. So today, SWAPO, Namibia's dominant party that receives around 80% in the national elections every 4 years, Namibia's dominant party is a member of the Socialist International. However, the party's constitution of 1991 and as revised in 98 does not make any reference to socialism. It merely mentions social justice as one of the founding principles of the party. SWAPO's publications of the 1970s and 80s, on the other hand, openly embraced Marxist-Leninist positions. In their fight for the independence of Namibia since 1960, SWAPO party members early on looked for support from outside the country. Over the next three decades, more and more countries run by socialist parties in Africa, Asia, and Europe were lending their support for SWAPO's cause. In 1963, the first SWAPO office was opened in Dar es Salaam, Tanganyika, where Julius Nyerere was about to cement his one-party rule and try to establish an African version of socialism. In the late 1980s, so 25 years later, SWAPO party as the legitimate representative of the Namibian people, as the UN defined its role in 73, SWAPO maintained about 20 representative offices as quasi-diplomatic residencies around the world that allowed for the organization of a broad support base in the international community. Support had to be found in the context of the Cold War, and SWAPO leaders found it not difficult to establish that the socialist camp, showed the greater understanding for SWAPO's mission. And it is in this context that we can ask, how socialist was SWAPO, and most of all, when? There seems to be a consensus among historians of contemporary Namibia and the Namibian struggle for independence that such Marxist ideological self-positioning or classification should not be taken too serious. In its most blatant version, one could pose the question I just posed as, is SWAPO's turning towards the socialist governments around the world just a story of turning on a tap of money? Chris Saunders and Sue Onslow, in their overview article on the Cold War in Southern Africa, deem it apposite to quote a leading UN official, and I quote, he commented that if SWAPO leader Sam Nujoma had met Karl Marx in the street, he would not have recognized him. Saunders and Onslow take this as a hint that SWAPO remained pragmatic in its search for an end to the South African occupation. However, it appears that this is very much an after-the-fact perspective that focuses on SWAPO's ability throughout the struggle to attract so many donors and so many sympathies about their struggle in the international community. The alleged fact that there was never a long debate over ideology does not say much. As within SWAPO and its leadership, there was no culture of long debate over whatsoever. Those who tried to ignite debate in the party often found themselves silenced, and that meant thrown into prison or worse. Also, the alleged flexibility in terms of ideology may have been far less flexible at certain times. In the 1980s, the 1980s saw SWAPO leaders steadfastly aligned with socialist governments, and retrospective explanations and rationalizations and self-rationalizations decades after the end of the struggle that emphasized SWAPO's ideological independence are not necessarily convincing. Lastly, the undisputably many sympathies in the international community that I just quoted, these sympathies may have more to do with the mechanisms of Cold War international politics and, most of all, they may have to do with SWAPO's enemy, that is, South Africa's government. The facts on the ground, that means the brutalities that were well published by Eastern and Western media, these facts on the ground and the epithets with which South Africa was characterized, and we know them all, occupier, racist, apartheid regime, and so on, these facts provided ample materials to win hearts and minds of sizable groups in East and West. Also, Western governments openly expressed their opposition to apartheid and did not think of Namibia as South Africa would have liked to, as Namibia of South Africa's fifth province. So the founders and early members of liberation movements in Southwest Africa, that is SWANU and SWAPO and its predecessors' organizations, these founders and early members were, through their sojourns in South Africa and most of all in Cape Town, strongly influenced by the South African Communist Party. Thus, socialist leanings and talk of anti-imperialist solidarity seemed a natural choice for young women and men in their search for betterment for their country. But the meaning of socialism and its political goals for the future of Namibia remained rather vague. In 1963, after having compared the two political organizations fighting for Namibia's independence, SWANU and SWAPO, in 1963, radical South African journalist Ruth First was later murdered, concluded that the differences between these two movements were more apparent than real. Nevertheless, people got jailed for their communism. The South African Suppression of Communism Act of 1950, that was also applicable in Southwest Africa, provided an exceedingly broad definition of the meaning of communism and communist. And I think this is the first definition of communism that we, or socialism that we hear during this conference. In their application of these statutory provisions, the South African courts were not necessarily on the lookout for avowed followers, and I quote from the Act, from the followers of the doctrine of Marxian socialism as expounded by Lenin or Trotsky, or the Third Communist International, that is Comintern, or the Communist Information Bureau, the Cominform, or any related form of that doctrine, Article 1.1. The judges rather focused on arguments that were constructed to aim at the encouragement of, and I quote, feelings of hostility between European and non-European races of the Union of South Africa. Evidently, such interracial hostility was considered to be encouraged by any political arguments against apartheid. And this was equated with the, and I quote, promotion of disturbance or disorder. And it was in this sense that in the early 1960s, SWAPO and some other opposition groups from Southwest Africa were considered by the South African authorities as being communist or socialist. But also internally, some members of SWAPO began to complain about the fact that the party was turning more and more towards communism. So in a quote from the memories of one eyewitness who complained that two high-ranking officials from SWAPO, Jacob Kungua and Louis Nelangani, were known to have, and I quote, always been at loggerheads as a result of the Cold War political indoctrination. Kungua was said to always speak negatively about the Soviet Union and the communist system. Nalangani, on the other hand, received guerrilla military training in the Soviet Union and was said to hate the US, the capitalist system, and everything associated with the West. Namibians in Tanzania found themselves to be divided between the supporters of Kwangua and Nalangani. In 65, Kwangua was fatally stabbed by his adversaries within SWAPO. And also, that is no exception, also other members of SWAPO noted with discomfort the stronger influence of socialist teaching. The unmistakably growing influence of socialist politics within SWAPO can also be recognized from training of SWAPO fighters in Tanzania. Around 1966, lessons included not only physical exercises and military tactics, but for those who could read, also serious readings of texts by men who I, our witness, Samson D'Aquila, and I quote him, believed were revolutionary thinkers such as Karl Marx, Lenin, Mao, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Che Guevara, Fidel Castro, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, and so on and so on. In fact, Mao Zedong's red booklet became my constant companion, always at hand in the chest pocket of my military uniform. And these quotations could go on. Three more minutes, no exception there. But also not only ideologically, but also in terms of how to run a socialist vanguard party, SWAPO turned more and more to the practices of Eastern Europe. So we have a young man of 20 years joining SWAPO in 1974 in a military camp. And he was told by one of the commanders who considered him too intelligent or whatever, and I quote the commander, "Those who came with degrees, I mean high school degrees, must forget it. SWAPO is an organization of the workers and the masses. Furthermore, everything belongs to SWAPO, and only SWAPO has the right to decide for each and every one." Another young man coming from Namibia, and SWAPO was actually never prohibited formally in Southwest Africa, so there was some political training or in how to run a party for members of the Youth League of SWAPO. And he was told by the later first Namibian Minister of Defense, who was then Secretary General, and he told him there was only one leader, Sam Nujoma, and he was the law, and he demanded that we say one Namibia, one nation, one SWAPO, one leader. And over the next decade, SWAPO would continue to deepen its commitment to the Soviet bloc. Actually, people after 75 were very much convinced that communism is in the ascendancy and that there was an inexorable march towards socialism of the so-called Third World. And this development found its expression not only in SWAPO's military cooperation with the Eastern Bloc, but also in the party program of 1906. And I would like to read or to talk about that for the last 2 minutes that are left to me. So I think yesterday we had this discussion here with the floor about, is there actually are there any factual traces of communist programs? And here we really have one, and it seems to be quite interesting that this came right in the middle of, right in the midst of party trouble within Angola, within MPLA, and within SWAPO. And we said that MPLA was apparently more hesitant to put it on paper what they thought about Leninism. SWAPO was more openly in 76, and they actually published it in Luanda, in the Diario de Luanda, and apparently not in English, but in Portuguese. And it has to be emphasized that already clause one of the program about the current and future task of SWAPO declared an unmistakable Marxist-Leninist phraseology. One of the goals is, and I quote, the unification of the entire nation of Namibia, in particular the workers' classes, the farmers, and the revolutionary intelligence in a vanguard party that is able to defend national independence and to lead the construction of a society without expropriated classes based on the ideas and principles of scientific socialism. Here you have it. So further goals then further down the program were a true land reform, the creation of cooperative of farmers or communal farms. So you really see the Soviet advisors telling them about the advantage of a kolkhoze. And also the creation of national farm, the sofios. So it is no, as I said, it is no coincidence that the new party program was published at a time of crisis within SWAPO. And I don't have time for this, but I also found sources of people returning in the late 80s and 19 or early 90s of Namibians coming, returning from exile, and they were talking about their fear of socialism. So we haven't spoken about that, but I mean, this is also part of socialism in Africa, that people were very well aware of what happened in Angola or in Mozambique, for example. And they were actually saying that they are afraid of an Angolan or Mozambican way to independence, that this was not the way they were hoping the future would hold for them. And probably we haven't spoken a little bit too less about this fear of socialism, because many people, also those who were trained in the Soviet Union or in the GDR, I mean, they very much, they saw the realities of socialism, and quite often they did see that the Germans were not doing well in socialism, the Russians were not doing well, the Angolans were not doing well, the Mozambicans were not doing well. Why should we, the Namibians, doing well under socialism? Thank you.
Bien, merci. Il nous reste quelques minutes. Je voulais remercier d'abord les organisateurs, organisatrices de m'avoir invité. Je n'ai pas de grande connaissance sur l'histoire des socialismes africains, mais j'ai été particulièrement intéressé par cette séance et ces quatre interventions qui, à mon avis, présentent une cohérence réel. Et donc en cela, il faut également remercier ceux qui ont conçu ce programme, puisque cette cohérence, elle est à la fois géographique, donc c'est un grand bloc de l'Afrique centrale à l'Afrique australe en passant par l'Afrique de l'Est, qui a effectivement une cohérence qu'on voit dans un certain nombre d'interventions. La place de la Tanzanie comme plaque tournante, non seulement idéologique, mais comme base arrière des mouvements de libération. Et puis, mon voisin de droite, Jacob, n'en a pas véritablement parlé. Il l'a expliqué parce qu'on en parlera par la suite, mais je lui poserai quand même une question là-dessus. La place des Allemands de l'Est, héritiers socialistes de l'ancienne puissance coloniale de la région, qui me paraît tout à fait intéressante. Et donc, on a une unité, je crois, thématique, puisque on dit socialisme de lutte, c'est la formation dans un certain sens des socialismes ou de certains socialismes dans la lutte armée, dans l'exil et dans le combat, avec des contacts, des influences, qui soient encore une fois locales, régionales ou même globales, et des liens qui tiennent à la fois à l'idéologie, mais on l'a vu peut-être plus directement, à l'aide matérielle qui est apportée par certaines puissances globales ou régionales. Alors, ce qui m'a également intéressé comme question, je dirais un peu générale, de ces interventions, c'est au fond, on voit apparaître à plusieurs reprises l'idée d'un socialisme syncrétique, à la fois syncrétique par les références socialistes les références socialistes extrêmement diverses qu'on voit apparaître, et aussi par la volonté, donc on le voit dans plusieurs interventions, d'articuler les traditions locales et des références externes. Donc ça, à la limite, ce n'est pas très surprenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des interventions d'intervenants venus de disciplines très différentes, avec des sources très différentes et qui permettent des approches, je crois, complémentaires. Alors, je poserai quelques questions donc à chacun d'entre vous, enfin rapidement, hein, puisque j'aimerais bien qu'on puisse, malgré le peu de temps qui nous reste, avoir quelques interventions ou témoignages de la salle. Pour Elara, alors j'ai été vraiment très intéressé par ce travail en profondeur sur les champs. Il y a juste une question que je me posais à la lecture des extraits que vous analysez. C'est que la référence au socialisme, elle me paraît faible, en fait. On voit effectivement du vocabulaire, les camarades, les masses, certains leaders cités. Mais au fond, il me semble que les citations que vous faites renvoie davantage à une lutte de libération nationale qu'à un projet. Lorsque vous parlez du grand soir, j'ai un peu l'impression que le grand soir, c'est la libération du pays plus que l'installation d'une société socialiste, d'une société différente dont on ne voit même pas les linéaments apparaître, au moins dans les extraits qui sont cités. Donc je me demandais si c'était une erreur de perspective à partir des extraits ou si effectivement c'était aussi votre sentiment. Voilà, première question. Si vous pouviez peut-être... Et puis...
C'est peut-être une erreur de perspective. Cela dit, dans les archives de Londres, tous ceux qui sont emprisonnés nient en bloc être communistes. Donc, enfin, il y a ça aussi en arrière-plan. Cela dit, il y a une réelle filiation et adhésion, du moins dans les discours. Après, dans les pratiques, c'est, il me semble, beaucoup plus complexe. Voilà. En tout cas, dans les discours, il y a une nette filiation, donc en termes de lexique, et puis même en termes sur les leaders, Nyerere est convoqué sans cesse. Il y a un appel aux leaders du continent, qui sont aussi des appels d'aide. Sous couvert d'invocation aux ancêtres, c'est aussi des appels d'aide militaire et parfois extrêmement concrètes. Qui sont mis en place dans ces champs. Il me semble aussi que c'est des partis pris pédagogiques parfois. C'est des champs qui ont des vocations pédagogiques, d'explication, notamment pour le code de conduite du soldat que j'avais projeté. Parfois, il y a des translations, ça se voit dans le vocabulaire, parfois il y a des translations, donc c'est juste des emprunts. Donc, par exemple, le terme de masse n'est pas traduit, donc il est pris en anglais, enfin, il est pris de l'anglais, et il est mis tel quel en Shona. Et donc là, effectivement, par le lexique, on voit que l'application est nette. Et parfois, c'est des périphrases. Conscientiser les masses, par exemple, ça ne passe pas en Shona. Et donc, je pense qu'il y a aussi des questions de langue, en fait. Et dans les champs, il me semble que du coup, c'est un peu moins perceptible. Donc, c'est perceptible par les leaders. Donc, effectivement, le nom propre, ça ne se traduit pas. Donc, du coup, ça se voit, cette influence socialiste. Et parfois, il me semble que dans la langue des champs et de l'espace resserré du champ, donc soit c'est un concept qui passe par un emprunt, donc qui lui-même a une histoire. Enfin, c'est un emprunt à l'anglais qui lui... Bon, on peut retracer une généalogie internationale des emprunts linguistiques. Et parfois, c'est des périphrases. Et donc, du coup, là, il me semble que c'est peut-être un peu moins lisible.
D'accord.
Je sais pas si c'est...
Bon, enfin, je pense qu'on pourra en reparler parce qu'il me semble que la perspective d'une société autre, elle apparaît peu. On est vraiment dans la lutte. Et il me semble que c'est un peu le même cas dans ce qu'a présenté Pauline. La boîte à outils, elle est d'abord politique, militaire, elle est stratégique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans sa présentation la médiation par le Frelimo plutôt que un emprunt direct à la Chine. On a également le code de conduite dont vous avez parlé. Mais le poisson dans l'eau, pour être véritablement dans l'eau, est-ce qu'il ne doit pas masquer pour partie sa dimension socialiste, qui pourrait être éventuellement perçue comme étrangère? Mais ça,
Oui, tout à fait, d'autant plus que le régime en place contre lequel il se battait se déclarait officiellement socialiste, et que parmi la population dans laquelle était basée la guérilla, le socialisme du régime, ça renvoyait à une période assez violente en 1966, quand le régime d'Obote avait aboli les monarchies, avait envahi le palais présidentiel, le roi avait été obligé de partir en exil, il y avait eu des émeutes avec un certain nombre de morts, et les Baganda avaient été ostracisés par le pouvoir en place. Et les Baganda considèrent le socialisme d'Obote avec ce souvenir en fait de leur ostracisation et de l'ethnicisme aussi du régime dont ils étaient les victimes. Donc justement, en face du peuple, c'est pour ça que les leaders de la guérilla n'ont pas pu utiliser ce vocabulaire de façon trop poussée, parce que ça avait déjà une référence en Ouganda assez forte, et qu'il valait mieux pas s'identifier trop au socialisme, parce qu'en Ouganda ça renvoyait à des choses différentes.
Très bien, merci. Pardon. Sur la Namibie et le Malawi, donc on a effectivement, je crois, ces interventions, ces liens étroits jusqu'à la confusion, ou en tout cas les interactions avec l'Allemagne de l'Est. Toujours cette place de la Tanzanie, mais on voit aussi l'extrême diversité de ces références. Dans le cas de la Namibie, la SWAPO apparemment n'était pas socialiste au départ. Donc est-ce que la nécessité de rechercher des appuis internationaux, et dans quelle mesure est-ce qu'elle a poussé ces militants alors à recourir à un discours socialiste, à des notions socialistes, et dans quelle mesure cette imprégnation avec les voyages, la formation, etc., a-t-elle été profonde, et quel effet de manière générale de ces liens avec ces pays essentiellement est-européen, dans le cas échéant, dans la pratique du pouvoir après les années d'opposition. Et puis, deuxième question qui est liée, ça peut effectivement paraître surprenant, mais le caractère très éclectique de ces socialismes, les emprunts extrêmement divers, comment était-il perçu par des régimes, je pense ici notamment au régime est-allemand, qui était, disons, plus orthodoxe sur le plan politique. Voilà.
Alors, I think you hit the nail on its head by your expression of practice de pouvoir. So I think you hit the nail on its head by the expression practice de pouvoir. This is now a thesis, and I can be criticized for it, but let me say it that way. Probably it was not just a matter of turning on a tap of money, but also in terms of practice de pouvoir. For a leader who wants to be a true leader, a leader who is not challenged by any domestic adversaries, it is far more attractive to be an East European style secretary general of a party than being a democratically elected Helmut Schmidt or Jimmy Carter. It is more exhaustive to be Jimmy Carter or Helmut Schmidt than being Erich Honecker or Leonid Brezhnev. I mean, this is what I mean by practice de pouvoir. And apart from this, if you truly believe in socialism by reading what your ideology teachers have taught you in certain classes, if you really believe in progress that is feeding itself, if you really believe in progress that is not necessarily depending on individuals, but if you really believe in these almost religious tenets, it is also very attractive because it also means you don't really have to think about how to run a municipality, how to improve transport or logistics. It will feed itself. It's natural law. There is no discussion about it that socialism and in the end communism will be there. It will be, in the end, sort of heaven. This is very attractive, if you believe in it. So, now I forgot your second question. What was it?
No.
Okay. I started writing it down, but then I started responding to your first question, and I forgot.
It's a question of time.
Okay, so it's a question of time, so now you can turn to him.
Yeah, I also try to remember the question. So, well, from my point of view, if I would refer to what you said, for me it's totally understandable that a lot of these, mostly all of the liberation movements had socialist visions. I mean, they were all colonized by capitalist powers, and we can trace back the relationships between, I mean, the Comintern and all these African communists, United States communists, black communists from the United States till the 1980 or something, you know. So, and it's a long history, and you already find something like I would call a socialist discourse in Western Africa in the 19th century. In the beginning, of course, they were always trying to get along with the civilization idea of Western modernity, etc. And then they realized, no, they will colonize us as long as possible. So then it just happened. And in the case of Malawi, you mentioned, if I understood it right, something about the relationship between a country, a strong socialist country like the GDR, and the oppositional, marginalized movement. I should add that, as far as I can say from my research, I mean, the leader of Lesoma, he contacted the embassy of the GDR in Tanzania, for example, or in Sweden, to get into contact and to get some support. And at the same time, Maungulu was there in the GDR, but he was the only Malawian who lived in the GDR for a longer period. So what we see here is a profound example of human agency, because if he wouldn't have been there and he came to the GDR, via Accra, he studied under Krumah and worked in Patmos Bureau of African Affairs. So he came in the 1960s to the GDR when the GDR sent scholarships to Accra. So this is also something like a casualty, I mean. And so the link started between Malawi and the GDR. Yeah.
Je passe. Ça marche? Oui. Merci bien pour votre présentation très intéressante et très, très productive. J'ai peut-être deux petites questions à Pauline par rapport à la géographie et les pratiques de circulation des idées maoïstes en Uganda. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ça? Et l'autre question, c'est si l'enthousiasme pour le maoïsme a changé un peu pendant la guerre en Vietnam, où la Chine a joué un rôle un peu compliqué. Et si l'engagement de, avec la guerre de Vietnam et la, la théorie ou idéologie de guérilla à Vietnam a influencé la perspective au maoïsme en Uganda. And another comment to Jakob's paper. I was fascinated by your presentation of these appropriations of socialism in Namibia and the creativities in which this rhetoric has been applied. And although a bit unsure of the question of how socialist the SWAPO was, if that is a productive question to pose, is it in some way, I think, assumes that there is some kind of socialism we can measure socialism against, so African socialism measured against some kind of real socialism or whatever, because I would rather, from a Soviet perspective, argue that there was no kind of coherent socialism, but it was, in a way, combined or a lot of heretic discourses within. So, in a way, we then would probably reproduce some kind of Cold War perspectives of what is real socialism, what is real capitalism. But what I find rather more productive is to see how, and that is what you perfectly showed, how socialism is used as a way of articulating specific demands. I mean, what you called turning to a bag of money, it's not just turning to a bag of money, but that is a way of articulating new ideas about a new division of labor, trade agreements, etc. So it's not only about kind of strategic use of rhetoric, but it's a way of articulating ways of reorganizing the world, so to say.
Peut-être une autre question.
Merci. Juste par rapport à la question, les rapports entre la Namibie, enfin la SWAPO et le MPLA, je crois qu'il faut voir ces choses peut-être à deux niveaux. Autant Mujoma avait était assez habile, bon, il y en a qui diraient opportuniste, pour obtenir au niveau de l'Angola l'espace politique dont il avait besoin, parce que ses rapports avec l'UNITA, au départ, enfin, lui avaient aliéné, disons, la sympathie du MPLA, et que lorsqu'il le tourne kazakh, et que le MPLA, c'est l'Olympia qui gagne donc cette bataille de Luanda, et que Mujoma a besoin de cet espace. Il s'arrange quand même pour s'adapter à cette situation. Bon, à un autre niveau, c'est quoi? C'est une population de réfugiés namibiens qui sont témoins de ce qui se passe en Angola, de ce socialisme de pénurie. J'ai vécu à Lubang, au sud d'Angola, il y avait beaucoup de réfugiés namibiens, dont 500 ont été massacrés en une matinée par l'armée sud-africaine. Kasinga, c'était pas loin de Lubango, là où je vivais. Donc ces gens-là, ces jeunes, ont été témoins de ce socialisme de pénurie en pleine guerre civile, et c'est sûr qu'ils ne voulaient pas le répéter chez eux. Donc ça, je crois qu'il faut tenir compte de cette situation par rapport et à Mujoma, qui a eu des rapports très difficiles avec le MPLA, et on sait qu'à la fin, ça s'est très mal passé. Le jour où Mujoma proclame l'indépendance de Namibie, il n'a pas eu un seul mot, mais pas un seul mot, de reconnaissance aux Angolais, ça a été très très mal pris. Ça s'est très mal terminé par rapport à la stratégie qu'il fallait suivre. Mais de l'autre côté, je comprends que ces réfugiés namibiens qui ont été témoins de cette situation difficile du chassement angolais n'aient pas voulu que ça se répète chez eux.
Just two remarks. One evidence on SWAPO and socialism. That was in 78, when I was for the first time in Windhoek to do some research. And I was told that if you want to have decent and cheap meals, you go to the Christian Center. But before going to the Christian Center, the very first day of when I was walking around, I went to the SWAPO office. As you had mentioned, SWAPO had not been forbidden inside Namibia. So there was an office. I stepped in and, I presented myself and what I had come for and so on. And then, okay, I went away and 2 hours later it was time to have lunch. I went to the Christian Center. Whom did I meet there? The entire crew of the SWAPO office. And there they were. And when the meals were dished out, what did they do? They folded their hands for a prayer. I found that very significant. So what could have been the attractivity of socialism? What they had really experienced, and which they had pointed out to me as I stayed there, they had experienced real existing capitalism in its colonial form, in its apartheid form. On that background, socialism with its ideals and equality and so on could only be attractive. And as it had been said by Malcolm X one day in one of his speeches, he said, "I have never seen American democracy. All I have seen is American hypocrisy." So this is, it's the same reflex. That's one thing. Another element, of course, SWAPO had never had any chance to sort of put into practice any socialism. Inside Namibia, anyway, it wasn't possible. They supported trade union action. That's, yes, but that is very classical. It's not particularly socialist. But what did they do outside? They just ran refugee camps with the money of the United Nations and other donor agencies. So running refugee camps, that is not particularly socialist. There wasn't even a chance of trying out what socialism might be. But then the refugees, they had a chance to experience, let us say, as socialist branded repression, very much so. A last thing, perhaps, I don't know whether you mentioned it, the support East Germany had furnished to SWAPO when the South African army had attacked one of the refugee camps in southern Angola, Kasinga. I don't know whether you mentioned it. No. What is interesting in this case is that after the attack, there were many, many dead, and quite a few children had no longer parents. Parents had died during the attacks. So what East Germany did, and it had been asked for that by the SWAPO leadership, was to take care of the parentless children. And they were taken to Eastern Germany and were brought up there in Eastern German schools, were put into families, guest families, and there they stayed there until nearly their A-levels, when independence had come. So then they were sort of sent back to Namibia, which they had never seen because they had been born outside in Angola. And then they were taken care of at the German grammar school, and that's where they made their Abitur. Yes, I just wanted to bring this evidence.
Merci. On est obligé de redonner la parole. Si vous voulez répondre rapidement, parce qu'en fait, il faut qu'on... Oui, en fait, dans l'atelier d'après, il y a une intervention en moins, donc on espère gagner un petit peu de temps à ce moment-là pour la traduction. On espère pouvoir revenir un petit peu sur les débats. Peut-être que des questions que vous vouliez poser maintenant pourront être posées tout à l'heure. Donc, on leur laisse quand même... Qu'on vous laisse répondre rapidement, du coup.
Oui, je vais essayer de répondre rapidement sur la question sur la circulation de la pratique de la guerre du peuple prolongée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une vraie circulation à partir du Frelimo mozambicain vers la NRA en Ouganda et après au Rwanda avec Paul Kagame. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, tous les futurs leaders en fait de la guérilla ougandaise il y en avait beaucoup qui en fait avaient fait des études à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie dans les années 60. Là, il y a l'USAF, le Front révolutionnaire des étudiants africains, qui avait été créé en 67, dont Museveni était le président et qui était très proche en fait du Frelimo. En 1968, il y a des étudiants de ce front, des étudiants révolutionnaires africains, qui vont au Mozambique, dans les zones libérées du Frelimo. Et là, Museveni va écrire un essai qui s'appelle Fanon's Theory of Violence, Its Verification in Liberated Zone of Mozambique. Et c'est très intéressant parce que là, dans la description en fait, qu'il fait dans ce qu'il a marqué en fait, dans la guérilla mozambicaine, et son admiration, on retrouve tout ce qu'il va après lui essayer de reproduire en Ouganda. D'ailleurs, dans les années 70, quand son groupe de résistants revient en Tanzanie pour un exil politique, c'est au sein du Frelimo qu'ils vont se former militairement, là de façon très concrète, à la guérilla, de la guerre du peuple prolongée. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les Rwandais qui étaient, parce qu'il y avait beaucoup de Rwandais parmi la guérilla ougandaise, dont Kagame, Rwenjira, qui vont après revenir au Rwanda et qui vont mettre en pratique la même forme de lutte qu'ils ont pratiquée en Ouganda. Donc on a vraiment une circulation très intéressante. Et je pense qu'à partir du Frelimo, il n'y a pas que l'Ouganda, il y a eu beaucoup de... C'est vrai que la Tanzanie a une position vraiment hyper intéressante dans les années 60 et 70, qui était vraiment, comme vous le disiez, la plaque tournante des idées, mais aussi des pratiques de lutte révolutionnaire. Et par rapport au Vietnam, non.
Okay, what were we talking about, whether SWAPO is socialist or not? As I said, as I quoted to you in the beginning from historians who maybe know better than I am, that there is pretty much a consensus that SWAPO socialism should not be taken too serious, or another expression was this is just a contribution to the zeitgeist, the party program of 76 that I quoted to you. And so it seems like historians making themselves a retrospective justice or a retrospective judge whether or not SWAPO was socialist or socialist enough. And I found that rather strange, because evidently one should acknowledge that people are able to change their opinions and also go with the forces of history that seem to be stronger. And it would be indeed very strange for Sam Nujoma and his SWAPO to continue the socialist rhetoric after independence in 1990. But it is actually true that also within the GDR leadership, dealing with foreign policy and dealing with SWAPO in particular, there were doubts whether SWAPO was actually socialist enough. And the same can be probably true also within GDR domestic discourse, that there is that socialist leaders always questioned other socialist leaders whether they are true socialist or not. So we can replicate then, but we could also just continue to analyze this. And so from my perspective, I can say that I'm rather unwilling to just dismiss SWAPO's socialism as just a contribution to the zeitgeist. And the relation between, as the gentleman just previously pointed out, the relation between churches and socialism and churches and socialism in Africa is particularly difficult to analyze for historians. And it is very true that the organization or the community of churches of Namibia, they were very, very much in favor of SWAPO. And those who dared to criticize SWAPO from within and from without actually got kicked out. So there are tragic biographies of those church leaders who dared to criticize the human rights violations of SWAPO. And we talked about the massacres of in Angola of Nito Alves and his followers in 77. And it is certainly true that SWAPO very much learned from the bigger brothers of ZANU-PF and MPLA how to deal with those who were considered spies. And you mentioned also the refugee camps in Angola. Refugees living there under very harsh conditions very much learned what they could expect from a socialist leadership in independent Namibia, and therefore many were very concerned about this because it was ruthless murder what happened there to all those who were considered spies, because what a socialist government or a socialist leadership apparently urgently needed were enemies. So they were urgently looking for enemies, and they treated them miserably. And it is said by human rights defenders in Namibia that actually more Namibians died at SWAPO's hand than actually SWAPO soldiers died from South African bullets. Okay, that's it.
Merci beaucoup à vous tous. Et on va faire une pause d'une dizaine de minutes.